puis de la thermodynamique et de l'électromagnétisme. En trois siècles donc, 17e, 18e, 19e, cette physique avait accompli des progrès considérables et permettait de décrire une grande partie, l'essentiel d'ailleurs, des phénomènes que nous observions autour de nous. Phénomènes du mouvement, les phénomènes de la chaleur, et puis, au cours du XIXe siècle, les phénomènes de l'électricité et du magnétisme. Nous reviendrons un peu plus tard sur les idées de base, sur les concepts fondamentaux à l'aide desquels la théorie classique décrit le monde. Toujours est-il qu'à la fin du XIXe siècle, les physiciens ont buté sur un certain nombre de phénomènes qui ne semblaient plus explicables par leur théorie établie, par la mécanique, par la thermodynamique, par l'électromagnétisme. Le premier de ces phénomènes, c'était tout simplement le phénomène atomique, je veux dire par là, la certitude que la matière était composée d'atomes et la nécessité de décrire ces atomes. Ces atomes ont compris relativement vite que leur structure était essentiellement de type électrique, mais du coup, un problème surgit. La théorie électromagnétique telle qu'on la connaissait à la fin du XIXe siècle demandait que ces atomes puissent rayonner de l'énergie, de la lumière en particulier. Et de fait, c'est bien ce qu'on observait, puisque les physiciens travaillaient sur les spectres atomiques, regardaient quelle était la nature des rayonnements émis, ce qui leur permettait d'ailleurs d'identifier ces atomes. Petit problème simplement, les théories qu'ils avaient ne permettaient nullement d'expliquer la nature d'abord de ces spectres, c'est-à-dire le fait que la lumière émise par un atome consiste en raies spectroscopiques, comme on dit, c'est-à-dire en rayonnement de longueur d'onde bien définie, et non pas en un continuum de longueur d'onde, de fréquence. Rien ne permettait, dans la mécanique et l'électromagnétisme tels qu'on les connaissait, de prévoir l'existence de ces fréquences particulières, et encore moins donc de les calculer. Plus grave peut-être, il semblait que la théorie classique soit incapable d'expliquer la stabilité même des atomes. Suivant la théorie classique, un atome devait rayonner de l'énergie de façon continue et s'effondrer sur lui-même de telle façon que leur persistance, leur stabilité n'était pas garantie. C'était donc tout simplement l'incapacité de la physique classique à garantir la stabilité de la matière telle que nous l'observons. Dans le même ordre d'idées, mais à une échelle plus macroscopique, et nous reviendrons sur ce thème, il ne faudrait pas croire que la physique quantique ne décrit que des phénomènes microscopiques. À l'échelle macroscopique, il existe un phénomène connu de tout temps de l'humanité et utilisé dans des techniques artisanales extrêmement anciennes, c'est le fait qu'un corps chauffé à haute température, rayonne, et que la couleur de ce rayonnement témoigne de la température auquel il est porté. Comme les potiers qui cuisent leur céramique dans les fours et les forgerons le savent depuis très longtemps, plus nous chauffons un corps, plus sa couleur passe du rouge à l'orange, puis au jaune, puis au blanc. Il y a donc un rapport très étroit entre la température d'un corps et le rayonnement qu'il émet. Là encore, échec de la théorie classique à expliquer ce rayonnement. Rayonnement d'ailleurs très curieusement dénommé par les physiciens rayonnement du corps noir, ce qui est un oxymore de première classe. Ça veut dire simplement que ce rayonnement, idéalement, celui que l'on cherche à comprendre, c'est celui qu'aurait un corps qui serait absolument noir à basse température, autrement dit qui serait capable d'absorber et éventuellement de réémettre toutes les radiations qu'il recevrait. Ce rayonnement donc, on ne pouvait pas le calculer par la théorie classique qui prédisait le rayonnement d'une quantité infinie d'énergie. Là encore, impossibilité de stabiliser la matière puisque portée à une température quelconque, elle semblait être capable d'émettre une quantité infinie d'énergie, ce qui est une absurdité évidente. Autre problème, et je reviens à l'échelle atomique ici, les chimistes savaient depuis quelques décennies que la matière est composée de molécules et que ces molécules sont des édifices atomiques. Comment ces atomes se lient-ils entre eux? Quelle est la nature des forces? On soupçonnait qu'elles étaient électromagnétiques, mais on ne pouvait guère en dire plus. Et expliquer la stabilité de certains édifices moléculaires et pas d'autres, leur forme et leurs propriétés. Vous voyez que des observations extrêmement simples, la stabilité de la matière, le rayonnement des corps chauffés,